Les archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Il est un des individus, il est un des groupes d'individus opposés à l'exercice du pouvoir par le peuple. Cela estime que le peuple est incapable de concevoir par lui-même, de décider par lui-même, d'organiser l'action par lui-même, de l'exécuter sans une direction étrangère à lui et qui lui dicterait sa conduite. Cela pense que le peuple est incapable de pensées élaborées et qu'il n'est mu que par les pulsions biologiques et les passions qu'il faut adroitement endiguer afin d'exploiter perpétuellement les masses. Bien que cette catégorie de personnes soit en minorité aujourd'hui chez nous, vous conviendrez avec nous que plus le carré ennemi se rétrécit, plus il est virulent et d'une subtilité diabolique.
Après l'euphorie qui a suivi l'accession à l'indépendance de la Guinée, avant toutes les autres nations sous domination française, le rêve est en train de tourner au cauchemar en ces débuts de la décennie 70. Sékou Touré, son leader, qui a osé dire non au général de Gaulle et qui a provoqué sa colère, devenant ainsi le héros de tout un continent, sous la pression, les complots réels ou supposés, semble quelque peu avoir perdu le cap et aussi de la lucidité. Pas facile de la garder après l'impressionnante tentative des mercenaires bissau-guinéens et portugais qui ont débarqué à Conakry en cette année 1971. Cette fois-ci, c'est tout un peuple qui est accusé de vouloir le renverser. L'Épeul. Et l'une des figures de son régime, l'une des personnalités guinéennes les plus connues à l'international, est dans son viseur. Diallo Telli, qui après deux mandats à la tête de l'Organisation de l'Unité Africaine, est revenu au pays. Il l'a nommé ministre de la Justice. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale 60 ans d'indépendance de la Guinée.
À Conakry, à cette époque, lorsque 10 voleurs se trouvaient devant un commissaire ou devant un tribunal, l'on comptait au moins 8 ressortissants de la moyenne Guinée. C'est un fait vécu et vous pouvez consulter la statistique des condamnés pour vol. Du temps de la colonisation, ils avaient démissionné du camp de la lutte car ils se comptaient au bout des doigts. Les Peuls, jeunes ou vieux intellectuels qui militaient ardemment dans les rangs du Parti démocratique de Guinée. Et très souvent, ceux qui venaient au parti étaient bannis de leur famille, isolés de leurs collègues originaires du Fouta, parce que considérés comme étant à la remorque des étrangers. L'étranger, c'était le Soussou, le Malinké, le Forestier, les camarades des autres régions de la Guinée, tandis que l'on faisait très bon ménage avec le colonisateur. L'on s'encoquinait avec le colon blanc et l'on se prostituait avec lui.
Ce discours de Sékou Touré annonce une violente purge au sein de la population Peul de Guinée. Une majorité des cadres et même des ministres de cette ethnie sont arrêtés. le docteur Barry Alpha Omar, ministre du domaine des échanges, Dramé Alioune, du plan et statistique, Diallo Telli est présenté comme le cerveau du complot Peul. Le 18 juillet 1976, Madame Kadidiatou Diallo Telli reçoit un coup de fil de la présidence de la République.
Sefouré a téléphoné à 19h et c'est moi qui ai pris le téléphone et je lui ai passé Diallo Telli qui est revenu nous dire je suis appelé à la présidence et je lui ai dit écoute, je ne veux pas que tu manges à la présidence. Je dis parce que personne ne mange là-bas. Et pour des raisons que tout le monde connaît. Et il m'a dit, je ne mangerai pas là-bas, je m'en vais simplement pour un dossier.
Tout le monde connaît, c'est-à-dire il y avait on empoisonnait.
Il m'a appelé pour me dire, dîner, moi je dîne ici. Donc, ils ont dîné, et après ça, il m'a rappelé en me disant, je pars chez ma sœur, je reviens après. Il est revenu vers minuit, on n'a pratiquement pas eu le temps de parler. Il a dormi et on est venu le chercher à minuit et demi, une heure.
Quelques instants après ce dîner tardif à la présidence de la République, une jeep de la sûreté guinéenne, avec à bord Siaka Touré et son escorte, vient amener Diallo Telli. Est-ce qu'avant que ces personnes ne viennent le chercher, il vous a dit, Madame Diallo Telli, ce qui s'était passé, ce qui s'était dit au cours de son dîner avec le président Sékou Touré?
J'ai été informé par ça, par Diop Alassane, à qui Telli a raconté la rencontre. Sékou Touré l'avait appelé, dit-il, pour lui confier une mission. Et quand ils ont dîné, Sékou Touré n'ayant pas parlé de la mission, Telli lui a demandé. Il était question d'une mission, quelle est cette mission? Et Sékou Touré aurait répondu, Diallo Telli, moi on ne me surprend pas. Et Telli lui aurait demandé, mais président, qui veut te surprendre? Il n'y a pas eu de réponse à cette question. Il lui a dit simplement, allez, au revoir Telli. Donc Telli est rentré à la maison à minuit, on est venu le chercher à une heure et demie.
L'ancien secrétaire général de l'OUA est enfermé au sinistre camp Boiro où il va passer sa première nuit. L'ex-secrétaire général de l'Organisation de l'Unité Africaine est désormais dans les mailles du filet de Sékou Touré. Au camp Boiro, Diallo Telli est déshabillé et jeté tout nu dans la cellule numéro 54. Même traitement pour son collègue ministre Dramé Alioune, qui occupe la cellule numéro 52, et le docteur Barry Alpha Omar, qui est à la 49e. La 50 est occupée par le capitaine Kouyaté, l'ex-aide de camp de Sékou Touré. Diallo Telli et ses compagnons d'infortune sont extraits nuitamment de leur cellule pour être torturés. Une commission spéciale est chargée de les faire parler. Soumis à des interrogatoires intensifs, ponctués de passages à la cabine technique, autrement dit à la salle de torture, à l'électricité notamment, pour le convaincre plus rapidement de lire les aveux qui lui sont proposés, Diallo Telli résiste quelque temps. Il faut dire que le prisonnier est tellement isolé. D'autres, tels Kamadou Diallo, dit Portos, vont quand même parvenir à lui faire passer un message.
Quand lui avait fait transmettre des commissions pour lui dire qu'il fallait qu'il résiste. Franchement, je n'étais pas très sûr de ce que je disais parce que moi, j'ai eu l'expérience de la torture. Je sais qu'on ne peut pas résister à la torture. D'abord, moi, j'ai fait 5 jours de diète d'accueil. Et on m'a amené à la cabine. On vous prend les deux bras, on les ramène derrière le dos, on tire, on attache au niveau des coudes, on tire la corde jusqu'à ce que vos coudes se rejoignent. À ce moment, on vous attache les pieds avec la même corde. On passe par le parapet, on tire, vous êtes soulevé de terre. Et maintenant, on prend la gégène et on commence à tourner. On vous met, si vous avez la chance, juste au bas-ventre, si vous n'avez pas la chance, dans les parties génitales même. Et on commence à tourner. Mais je vous assure que c'est difficile d'y résister. Je n'ai vu qu'un seul dans tout le parcours de Boiro qui ait pu résister et qui ait survécu. C'était un Libanais du nom de William Gemayel. Les autres, ceux qui ont résisté, sont soit mort à la torture, tels que Paul Stephen, soit ils ont fini par craquer. Moi, je vous assure qu'à la fin, j'étais prêt à tout dire, à dire n'importe quoi. Fadel Gusen, quand on lui a envoyé la décharge de courant, il a crié, il dit arrêtez. On lui dit non, qui t'a recruté? Il a dit c'est Arsène Lupin. Et on a mis Arsène Lupin. Et ce type a été.
Il ne savait même pas qui était Arsène Lupin.
Il ne savait pas. Il paraît qu'à la commission, Ismaël a enlevé Arsène et a laissé M. Lupin. Quand il me torturait, il me connaissait. Moi, je ne le connaissais pas. Il m'a dit, mon petit, je te connais bien. Je prenais la garde chez toi. Tu étais gentil. Quand tu venais la nuit tard, tu me disais d'aller nous coucher. Il faut leur dire la vérité. Sans cela, ils vont t'esquinter. Et ils ne pourront plus te libérer. Et peut-être même tu vas mourir ici. Il dit, il faut leur dire la vérité. Je dis, mais j'ai dit toute la vérité, je ne connais rien de tout cela. Il dit, non, c'est pas cette vérité qu'il faut dire. Il faut leur dire la vérité du ministre. C'est-à-dire la vérité que le ministre veut entendre.
En effet, sous la pression et la torture physique et morale, Diallo Télé craque le 31 juillet 1976 et accepte de rédiger puis d'enregistrer ses aveux, la vérité du ministre. Ses confessions sont gardées pendant quelques jours au frais. Puisque quelques temps après, au palais du peuple, les militants écoutent plutôt ceux d'autres prisonniers moins importants, des hauts fonctionnaires et des militaires. Souleymane Sy Savané reconnaît avoir reçu en 1972 de l'argent des services gouvernementaux français. Un autre accusé affirme que leur mouvement est financé par des organismes et industriels français et met en cause l'attitude floue de Paris. Il évoque également la complicité du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de l'Allemagne fédérale, de l'Afrique du Sud, du Gabon et du Zaïre. Pendant ce temps, Sékou Touré a été mis au courant des aveux de Diallo Télé. Il y reconnaît sa participation dans un putsch contre le chef de l'État. Mais cette première confession n'est pas suffisante pour le guide de la révolution. Pour lui, il n'a pas tout dit. Il faut le faire parler à nouveau. Après deux nouvelles semaines de torture, le 22 août 1976, la radio nationale guinéenne, la Voix du Peuple, diffuse cette fois-ci les aveux de Diallo Télé et d'Alioune Dramé.
Je présente de sincères excuses au peuple de Guinée, à son parti État et à son guide. Je sollicite la clémence du responsable suprême de la Révolution pour me permettre de me racheter par mon travail et mon dévouement et me permettre enfin de payer une partie de mes dettes au peuple de Guinée. C'est à Washington en 1971, lors d'une mission de l'OUA aux États-Unis, que le secrétaire d'État américain Henry Kissinger m'a demandé, au cours d'un entretien spécial, ma collaboration en vue de défendre et de préserver les intérêts américains en Afrique, et particulièrement en Guinée. En retour, il m'a promis, dans la plus grande discrétion, la solution de toute difficulté que je porterai à la connaissance de son gouvernement. Dans l'immédiat, il promit l'assistance de son gouvernement pour ma réélection à Rabat en juin 1972. Par la suite, l'ambassadeur Sherman, du Libéria, m'a contacté à Conakry pour le compte des États-Unis. Mon recrutement à la CIA remonte à fin novembre 1974, après mon retour d'une longue cure médicale de près de 3 mois en Roumanie. L'ambassadeur Sherman, multipliant ses marques de sympathie et d'intérêt, ainsi que ses visites à mon domicile, me proposa de m'aider à améliorer mes conditions matérielles et autres dans la plus grande discrétion. À cette fin, il m'offrit d'utiliser mon expérience et mes relations pour aider les États-Unis à protéger leurs intérêts nationaux en Guinée et en Afrique. J'ai accepté cette proposition à la condition expresse que la coopération envisagée soit entourée de la plus grande discrétion. Dans ce cadre, j'ai fourni au gouvernement des États-Unis, par l'intermédiaire de Sherman, des renseignements réguliers sur les grands événements de la vie intérieure guinéenne, ainsi que sur sa politique africaine et internationale. Après le renversement de la situation, je devais assurer les fonctions de chef d'État. Mais, par précaution, j'ai préféré confier la direction du pays à un état-major militaire, compte tenu des aléas et des incertitudes sur le succès final. Seule, en effet, une telle précaution pouvait permettre de faire volte-face et au besoin d'amoindrir les conséquences du désastre en cas d'échec. Cette technique qui permet aux auteurs réels de coup d'État de rester au début dans l'ombre a été souvent utilisée avec succès lorsque le renversement de la situation demeurait un grand point d'interrogation, quelles que soient les précautions prises, ce qui est indiscutablement le cas en Guinée.
Tirno Diallo-Télé, lorsque vous avez écouté ses aveux de votre père à la télévision, reconnaissant qu'il travaillait pour la CIA et qu'il préparait un putsch, qu'est-ce que cela vous a fait? Quelle a été votre réaction?
On a éclaté de rire quand on a entendu la bande la première fois, malgré le dramatique de la situation, parce qu'il a trussé sa soi-disant déclaration d'erreur grossière, exprès. Il prétend dans l'enregistrement qui est fait que chez nous, à Mali, et c'est sa femme qui est de Mali, lui n'est pas de Mali. Donc ça déjà, c'est inimaginable dans la bouche de mon père. Deuxième erreur grossière qu'il a ajoutée, il annonce que le secrétaire d'État Henry Kissinger, il a incorporé dans la CIA. Malheureusement pour le régime de Sékou Touré qui a concocté ces mensonges, Henry Kissinger était National Security Advisor, conseiller à la sécurité nationale à l'époque. C'est William Rogers qui était le secrétaire d'État des États-Unis quand mon père était secrétaire général de l'OUA. Et ça, les Guinéens, ils sont souvent des grands ignorants de l'histoire, l'ignoraient complètement. Donc, il nous envoyait un message de sa cellule, nous disant que ces déclarations n'étaient pas volontaires. Ils ne pouvaient pas faire des erreurs aussi grossières.
En effet, les aveux de Diallo-Télé sont truffés d'inexactitudes, d'erreurs que le diplomate chevronné, celui qui a été la figure de la diplomatie africaine pendant 8 ans, ne pouvait commettre. Par exemple, la date de 1971, où il dit avoir rencontré Henry Kissinger, ne colle pas. Puisqu'à cette période, l'Américain n'était pas encore secrétaire d'État. Il ne le sera qu'en 1973. Et puis l'Afrique n'était pas vraiment le rayon d'Henry Kissinger pour qu'il organise un entretien spécial pour recruter Diallo-Télé pour la CIA. André Lévin, premier ambassadeur de France en Guinée.
Ils ont été diffusés en fait en 2 fois. La première fois par la radio, mais aussi au cours d'une séance publique au Palais du Peuple, donc devant quelques milliers de militantes et de militants. On avait du mal à reconnaître la voix de Diallo-Télé. C'était 15 jours après son arrestation à peine. Enfin, il avait déjà visiblement terriblement souffert et sa voix était sourde. Et il avait du mal à s'exprimer, donc c'était tout à fait poignant. Et après sa déposition, sa confession, Sékou Touré a pris la parole pour dire, là, vous venez d'entendre le témoignage de l'ingrat. C'était pour lui, Diallo-Télé, c'était un ingrat. Il n'a pas remercié, il ne m'a pas remercié, il n'a pas remercié le peuple guinéen pour les honneurs qui lui ont été faits. Et Sékou Touré a dit, il va falloir le réinterroger, il n'a pas tout dit. Et il y a eu donc une deuxième version complétée des confessions de Diallo-Télé, où il a notamment dit, c'est Kissinger qui m'a recruté pour la CIA, etc. J'ai essayé d'obtenir de Kissinger un témoignage là-dessus, mais malheureusement Kissinger n'a jamais répondu. Alors est-ce que c'est une manière pour lui de ne pas vouloir prendre position? Je ne sais pas.
Dans ses aveux, Diallo-Télé met en cause de nombreuses nations, celles que Sékou Touré a toujours considérées comme des puissances impérialistes, celles qui, selon lui, ont toujours voulu déstabiliser la Guinée, faire échouer la révolution, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Afrique du Sud, la Suisse et bien d'autres nations africaines. Mais la France est celle qu'il soupçonne fortement d'être le soutien réel de ce complot. Dans quelle mesure est-elle impliquée? A-t-elle réellement pris contact avec Diallo-Télé? Quel est le sort qu'il réserve à l'ancienne figure de l'Organisation de l'Unité Africaine en particulier, mais également au Peul en général? On en parle dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale, 60 ans d'indépendance de la Guinée. Rendez-vous juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.
Les archives d'Afrique, à la fois. Foucault.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Ils ne voulaient pas de l'indépendance, ces peuples. C'est la déclaration de guerre. Ils veulent d'une guerre raciale. Eh bien, nous, nous sommes prêts. Quant à nous, nous sommes d'accord et nous les anéantirons immédiatement. Pour ceux qui sont à l'extérieur, nous n'avions pas voulu jusqu'ici les liquider. Mais nous allons le faire désormais pour que notre peuple vive en paix.
En cette seconde moitié de la décennie 70, alors que la Guinée s'apprête à célébrer ses 20 ans d'indépendance, la révolution qui au début a séduit l'Afrique tout entière semble avoir tourné au cauchemar. Passé le mois d'euphorie qui ont suivi l'accession à la souveraineté internationale, l'économie de la jeune nation est dans un piteux état. Malgré les discours idéologiques pour mobiliser les masses, c'est un peu le désenchantement. La révolution ne séduit plus. Et comme si cela ne suffisait pas, l'ancien colonisateur, la France, qui n'a pas ménagé d'efforts pour fragiliser le régime de Sékou Touré, introduisant même de la fausse monnaie sur le territoire, n'est pas la seule à vouloir faire partir le président guinéen. Après les vrais et faux complots qui se sont succédés, cette fois-ci c'est tout un peuple représentant 40% de la population guinéenne qui est pointé du doigt par le guide de la révolution, les Peuls. Il a fait arrêter son leader, celui qu'il présente comme le cerveau du complot Peul, Diallo Telli, qui après 8 ans à la tête de l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine, est rentré au pays. Après plusieurs jours au camp Boiro où il l'a fait enfermer, on lui a extirpé des aveux. La vérité du ministre que l'on a diffusé sur la voie de la révolution, la radio nationale. Des aveux dans lesquels Diallo Telli met en cause de nombreuses nations. Celles que Sékou Touré a toujours considérées comme de puissances impérialistes. Celles qui, selon lui, ont toujours voulu déstabiliser la Guinée, faire échouer la révolution. Les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, l'Afrique du Sud, la Suisse et bien d'autres nations africaines. Mais la France est celle qu'il soupçonne fortement d'être le soutien réel de ce complot. Il va même jusqu'à citer la participation de Radio France Internationale qui, selon lui, vient de diffuser sur ses ondes un long communiqué particulièrement virulent du regroupement des Guinéens de l'extérieur. Suite de notre série spéciale 60 ans d'indépendance de la Guinée. Dans les aveux de Diallo Telli diffusés à la radio, la France est présentée comme organisateur et soutien. L'ambassadeur André Lévin, qui pourtant rencontre régulièrement Sékou Touré, est directement mis en cause. Il va aller voir le leader de la révolution guinéenne qui, pendant l'entretien, va même lui annoncer que la démission de Jacques Chirac de son poste de Premier ministre en France était une conséquence de son soutien aux Guinéens de l'extérieur. Toujours selon Sékou Touré, le président Giscard lui aurait réclamé sa démission pour cela. Mais une question revient souvent tout de même sur le rôle joué par la France auprès de Diallo Telli. Est-ce qu'à un moment, Paris n'a pas vraiment pris contact avec Diallo Telli pour remplacer Sékou Touré qui n'était pas très arrangeant? Après tout, il avait le profil qui y convenait. Il était francophile et plus coulant. Le premier pays qui aurait pu prendre contact avec lui, c'était la France, non, monsieur André Lévin?
Oui, moi, le premier de ces pays, ça aurait été la France. Parce que Diallo Telli avait été fonctionnaire français, fonctionnaire de la France d'outre-mer.
Mais est-ce que vous n'avez pas reçu, vous, ambassadeur de France, ou auprès de vous, ce qui constituait peut-être le corps militaire et autres, des instructions, des recommandations pour pouvoir le placer à la place de Sékou Touré à un moment donné?
Pas la moindre, non. J'ai même, comme il me disait qu'il était inquiet... Je me posais la question et je lui ai dit, pas aussi brutalement, parce que je n'imaginais même pas qu'il serait arrêté aussi vite, mais enfin, je lui ai dit que si un jour il voulait aller dans un endroit où il pourrait se sentir rassuré, l'ambassade de France serait à sa disposition.
Ça aurait probablement... Vous ne le pensiez pas?
Je le pensais et je l'aurais fait, tout en sachant que ça risquait de compromettre sérieusement mes relations avec Sékou Touré, du coup, entre Paris et Conakry, mais j'avais je dirais, tellement de sympathie pour Diallo Telli que je l'aurais fait en espérant ensuite arriver à le faire évacuer ou je ne sais pas comment. Enfin, en tout cas, je n'ai jamais reçu la moindre... J'avais au contraire...
Pas même vos collaborateurs qui étaient peut-être des services de renseignement, oui. Qui étaient peut-être des services de sécurité.
Il y en avait un que je connaissais bien et que je contrôlais soigneusement. Il y en a qui venaient, par exemple, il y a un bâtiment de la Marine nationale qui est venu pour un premier voyage, une escale de courtoisie au port de Conakry, et je savais qu'à bord, il y avait des officiers du deuxième bureau. Et je les ai pris à part, je leur ai dit, premièrement, faites pas de conneries, dans Conakry, tenez-vous bien, on organise une soirée dansante, des ministres et autres, et peut-être même le président vont vous recevoir, etc., etc.
La violence des propos est à peu près à la mesure de ce qui attend ces cadres Peul. Diallo Telli est leur chef de file. Les moments qui vont suivre vont être particulièrement difficiles pour eux. Désormais, la guerre est déclarée. Quoi qu'il en soit, les aveux suggérés et soutirés à Diallo Telli vont permettre au président Sékou Touré de justifier le terrible complot ourdi par toute une ethnie. Et ses discours contre toute une partie de la population guinéenne, les Peuls qui représentent 40%, vont être d'une rare violence. Presque un appel au massacre. Petit extrait de son discours prononcé à la radio guinéenne pendant cette période au peuple. Il est lu par notre confrère Soro Solo.
L'on a inculqué au peuple l'idée qu'il n'est pas noir. Et certains vont jusqu'à la recherche de leurs origines en Somalie, en Éthiopie ou ailleurs et refusent de vivre leur temps, leur espace et de comprendre leur peuple. Cet esprit raciste a eu une influence néfaste sur beaucoup d'intellectuels. Mais quelle en était la réalité? C'est que, intellectuels qu'ils étaient, ils n'étaient pas avec des masses populaires, lesquelles étaient abandonnées à elles-mêmes. Ils cherchaient plutôt de manière opportuniste à vivre en bon terme avec les chefs de village et de canton, avec le régime colonial et certains d'entre eux n'ont obtenu de grands diplômes qu'au prix de leur obséquiosité. Quand un homme, comme le faisait le raciste intellectuel Peul, se vante d'être intelligent, c'est qu'il est tout simplement bête. Nous utiliserons la force brutale contre ceux qui ont des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre. Ils sauront qu'on n'a jamais eu peur d'eux, qu'on les respectait, mais que, comme ils n'aiment pas le respect, nous leur présenterons ce qu'ils aiment, la force brutale.
Monsieur André Lévin, vous qui l'avez côtoyé de très près, d'abord pendant les négociations qui ont abouti au rétablissement des relations avec Paris, ensuite en tant qu'ambassadeur de France en Guinée, vous le rencontriez régulièrement. Pourquoi détestait-il tant les Peuls?
Il y a une histoire que l'on m'a racontée, dont je ne sais pas si elle est vraie. Un marabout avait dit à Sékou Touré, quand il était relativement jeune, « Ton pouvoir s'arrêtera lorsque le Fouta bougera ». Et évidemment, maintenant, avec le recul, on se rend compte que lorsque le Fouta a bougé, ce sont les tremblements de terre très inattendus qu'il y a eu à la fin de 1983 et au début de 1984. Mais jusque-là, il est tout à fait possible que Sékou Touré ait pris ça pour le Fouta, c'est-à-dire les habitants du Fouta, et qu'il en ait conçu une espèce de haine ou de méfiance, en tout cas vis-à-vis des Peuls en général.
Ils ne voulaient pas de l'indépendance, ces Peuls. C'est la déclaration de guerre. Ils veulent d'une guerre raciale. Eh bien, nous sommes prêts. Quant à nous, nous sommes d'accord. Et nous les anéantirons immédiatement. Pour ceux qui sont à l'extérieur, nous n'avions pas voulu jusqu'ici les liquider. Mais nous allons le faire désormais pour que notre peuple vive en paix.
Désormais donc, le Peul, notamment le cadre, est traqué, persécuté et exécuté par le régime de Sékou Touré. Les scènes de pendaison sur les ponts de Conakry et des autres villes du pays se multiplient. Kadidiatou Touré Diallo, enseignante et militante de la Révolution, ancienne prisonnière du camp Boiro.
Tous les ministres Peul étaient obligés de passer à la radiodiffusion nationale. La radiodiffusion de la Révolution, pour expliquer leur naissance.
Le martyr de Diallo Telli, que l'on présente comme le cerveau de cette tentative de putsch, ne fait que commencer. Il est confiné à l'isolement. Madame Kadidiatou Diallo-Telli, vous, sa femme et sa famille, aviez-vous au moins un contact avec lui? Aviez-vous de ses nouvelles?
On ne l'a jamais revu, on n'a jamais pu lui parler, on n'a jamais eu de lettre.
Tierno Diallo-Telli, vous étiez plus jeune et vous rencontriez certainement plus de personnes dans la rue. Vous aussi, vous n'avez jamais eu d'informations, de messages envoyés par votre père?
Nous n'avons jamais eu le moindre contact avec quelqu'un qui nous a dit qu'il a vu papa. Je ne l'ai jamais senti vivant de la minute où il est parti. J'étais le seul enfant témoin au moment de son arrestation. Je ne croyais pas qu'il pouvait survivre. Je connaissais la brutalité de ces gens-là. J'avais eu un tout petit aperçu pendant quelques heures du camp Boiro. J'en avais aucun doute qu'il n'avait pas survécu. Certains militaires venaient au portail et prétendaient que les lunettes du secrétaire général passaient. Remettez-nous une paire de lunettes. Dans le doute, comme nous n'avions aucun mot de lui, nous avons toujours remis des slips, des chemises aux gens. Et c'est en 84 que tout le secret du trafic autour des prisonniers politiques s'est fait. Quand on a ouvert le camp Boiro, il y a des veuves qui ont dit « Mais non, la semaine dernière, on m'a demandé de trouver des chemises. » Alors que le mari était en fait mort depuis plusieurs dizaines d'années dans certains cas.
Jusque dans sa prison, Sékou Touré continue de faire pression sur Diallo-Telli. Il lui écrit souvent. Petit extrait d'une de ses lettres.
« Nous n'avons pas peur de toi. Nous n'avons peur que de notre peuple et de Dieu. Nous pouvions te faire arrêter à l'aube de notre indépendance. » Nous ne l'avons pas encore fait malgré ton comportement anti-peuple. Nous pensions qu'il nous appartenait de te donner la chance de te racheter aux yeux de notre peuple et de sa glorieuse histoire. Jusqu'ici, nous continuons à penser que rien n'est perdu pour toi. Car si ton apport au parti a été jugé très insuffisant depuis notre indépendance, là où tu es aujourd'hui, tu peux faire des livres pour rendre service à ce parti qui t'a grandi. L'idéologie de notre parti n'étant pas une idéologie figée, nous te demandons de nous préciser exactement le rôle que tu pourrais jouer pour notre pays, largement ouvert sur le reste du monde. En vantant tes mérites créés de toutes pièces, la presse réactionnaire compromet la visite que le nouveau président de la République française a accepté de rendre à notre peuple. Désormais, ton sort est lié à ta sincérité pour le parti État de Guinée. En pensant que pour une fois, tu sauras te mettre aux côtés de notre peuple.
Diallo-Telli, qui trouve désormais son réconfort dans l'islam, ne se fait aucune illusion sur son sort. C'est donc sans détour qu'il répond aux lettres du président Sékou Touré. Petit extrait de ces lettres. L'histoire nous a montré que tous les régimes dont l'assise repose sur le mensonge et la force périssent par la force. Ce soulèvement populaire qui te hante, je ne l'ai jamais souhaité pour mon pays, mais il est inévitable. Il a été obtenu de moi une déposition dans laquelle je devais être le président de la République de Guinée à la suite d'un coup de force. Très sincèrement entre nous, soyons sérieux, tu sais que j'ignore tout de ce scénario. Depuis que je suis dans la cellule 54 au camp Boiro, mon seul souci est de savoir comment trouver la voie de mon Créateur. Pour cela, je m'emploie à le prier pour implorer son pardon. Fin de citation. Dans sa dernière lettre du 13 janvier 1977, écrite en réponse à celle qui lui a été adressée quelques jours plus tôt par le président Sékou Touré, il termine en disant ceci. « Je crois que pour des raisons qui te sont personnelles et que je ne veux pas évoquer ici, tu vas épargner à nos familles l'horreur de notre mort publique par pendaison ou fusillade. » Mais je t'ai découvert à Boiro, et tout laisse penser que mes jours sont désormais comptés. Depuis, je suis à cheval entre ce monde régi par ton humeur et celui où Allah, notre Créateur commun, nous attend tous les deux. Étant musulman pratiquant, je ne me suiciderai pas. Je répondrai à l'appel d'Allah par mes sommaires prières. Le moment venu, je te demande de faire vérifier si mon comportement a bien été celui que j'ai dit. Vive la justice et la liberté. Fin de citation. Un mois après cette dernière lettre, le 12 février 1977, en milieu d'après-midi, alors que les prisonniers vaquent à leur corvée traditionnelle, ils entendent un signal qui annonce traditionnellement des moments difficiles. Barrage, barrage, barrage. Ceci signifie que tous les prisonniers doivent regagner immédiatement leurs cellules et qu'elles doivent être hermétiquement fermées. L'adjudant-chef Mamadou Fofana fait vider de leurs modestes affaires personnelles les cellules du docteur Alpha Oumar Barry, Sissavane Souleymane, Diallo-Telli et le capitaine Lamine Kouyaté. La lettre D signifiant « diète noire » est tracée sur leur porte, ce qui signifie en fait qu'ils sont condamnés à ne recevoir ni nourriture, ni eau, ni soins, jusqu'à ce que mort s'en suive. Un supplice lorsque l'on sait que dans la journée, la température dépasse parfois 46 degrés. 4 jours après, la diète noire est interrompue pour Sissavane qui est remplacé dans sa cellule par Alioune Dramé. Diallo-Telli, quant à lui, voit son supplice aggravé puisqu'il est transféré à la cellule 52. Fadama, le chef du poste central, estime que le bas de porte de la cellule 54, rongé par la rouille, laisse passer de l'air et que quelqu'un pourrait y glisser de la nourriture ou de l'eau. Le 1er mars 1977, au petit matin, Diallo Telli décède de suite de la diète noire. L'Afrique perd un leader. L'un de ses plus illustres représentants est mort dans la cellule 52 du camp Boiro. Il a succombé à 22 jours de diète noire. Boubacar Diallo Telli. Siaka Touré, le chef du camp, informé, rend immédiatement compte au président Sékou Touré. Mohamed Sako, qui fut secrétaire général du mouvement des jeunesses du PDG, le Parti démocratique de Guinée, était présent lorsqu'il vient annoncer la mort de Diallo Telli au guide de la révolution guinéenne.
On est venu l'annoncer. Par hasard, j'étais dans son bureau. Telli, Diallo Telli, est mort. Il a enlevé et ses lunettes et son bic qu'il a déposé. Il a regardé autour de lui ceux qui sont venus lui annoncer. Je ne vais pas citer leur nom parce qu'ils sont morts maintenant. Mais il a dit « Sortez !» Il dit « On me met ça aussi sur la tête. » C'est-à-dire « On va m'accuser de ça. »
Alpha Abdoulaye Diallo, vous étiez prisonnier dans ce fameux camp Boiro à cette date-là. Et même si vous étiez tous enfermés, vous voyiez et saviez grâce aux guetteurs et même à certains de vos gardes ce qui s'y passait. Alors, après que l'on ait constaté son décès, qu'est-ce qui se passe ensuite?
On l'a mis dans une couverture et sale, et là, une ambulance, une espèce de jeep est venue pour aller le déposer dans un des, comment dirais-je...
Les charniers.
Des charniers, exactement, vous me passez le mot.
Un des nombreux charniers situés dans la banlieue de Conakry. Diallo Telli y est enterré discrètement, sans cérémonie religieuse. Quelques jours après, Sékou Touré va venir personnellement, nuitamment, vérifier que le corps qui est enterré est bien le sien. Tierno Diallo Telli, vous avez pu vérifier cette information?
Le dernier maire qui était en poste dans le quartier de Nongo à l'époque. L'association des enfants des victimes du camp Boiro l'a enregistré sur film, nous racontant comment Sékou Touré est passé le chercher dans la nuit du 1er mars 1977, en lui disant « Accompagne-moi ». Ils sont arrivés quelque part dans Nongo. Et la nuit, donc, ce vieux monsieur ne se rappelle pas où exactement. Dans Nongo, c'est un quartier périphérique. Et là, il y avait des militaires à la lumière de torches et de lampes tempêtes qui avaient creusé un trou. Les deux, Sékou Touré et le maire, se sont pris sur le trou et le maire a été terrorisé. Il a vu le corps d'un homme qui était dans une chemisette et une culotte bleue, qui est bleu marine, qui est la tenue connue des prisonniers politiques. Et il lui dit, tu vois l'homme au fond du trou là? Le maire dit oui. Il dit, ça c'est le premier secrétaire général de l'OUA. Nous avons aujourd'hui un témoin vivant qui l'a déjà dit à la presse et qui nous l'a répété à nous-mêmes.
Diallo Telli, l'ex-secrétaire général de l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine, est mort et pourtant sa famille ne le sait toujours pas. La disparition de celui qu'il considérait comme le cerveau du complot Peul et la diaspora va-t-il calmer ses ardeurs vis-à-vis de cette communauté? Rien n'est moins sûr. Et la révolution dans tout ça? Quel destin pour la Guinée qui s'enfonce chaque jour un peu plus dans la pauvreté? On en parle la semaine prochaine dans la suite de cette série Archives d'Afrique spéciale 60 ans d'indépendance de la Guinée, avec des acteurs. Mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà réécouter les 6 premières parties sur le site de RFI dans la rubrique Les émissions ou sur archivesdafrique.com ou simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Vous pouvez également réagir sur notre page Facebook Archives d'Afrique, la première sur notre antenne, avec ses 600 000 amis. Merci pour cette confiance. Olivier Raoul, Marjorie Bertin et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale 60 ans d'indépendance de la Guinée. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.